Vous écoutez Arte Radio.
Est-ce que vous êtes chauds et prêts et prêtes à partir? On a un son hyper puissant cette année, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bouger vos culs.
Quel plaisir de voir autant de gens danser. Il y a des drapeaux dans tous les sens, c'est super coloré, c'est trop chouette quoi.
Alors qu'est-ce qu'il y a sur ta pancarte?
Moins de RN, plus de lesbiennes. Il y a aussi Queer Joy.
Aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de joie d'être tous ensemble et tout ensemble. Il se passe vraiment un truc de lien entre les gens. Il y a des fois où c'est la chose la plus précieuse. C'est parce que c'est la création d'une communauté en direct en fait. La musique, la danse, la joie aussi, c'est quelque chose qui nous protège contre la violence qu'on se prend régulièrement dans la gueule. Ça donne tellement de force. C'est que comme ça qu'on pourra résister à l'homophobie, à l'extrême droite, résister à toutes les violences qui attaquent les communautés minoritaires.
Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
Maintenant, il faut des mots.
Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 54, une vie à soi, à Calais, pour la marche des fiertés.
Au début de l'été, j'ai vécu un moment très fort à Dunkerque, là où je vis. C'était le 6 juillet, le jour de la toute première marche des fiertés organisée dans la ville. Cet après-midi-là, j'ai dessiné avec fébrilité le drapeau lesbien sur mon bras et posé quelques paillettes sur les paupières. J'ai avancé vers le lieu de rassemblement avec appréhension. Je savais que les organisateurs et organisatrices avaient eu bien du mal à obtenir une autorisation de la mairie pour avoir le droit de poser quelques tables et stands destinés aux associations et aux ventes de drapeaux colorés sur une petite place de notre ville. Et puis, j'avais peur que nous soyons très peu nombreux et nombreux, peur de se retrouver à 50. Au quotidien, nous nous croisons si peu. Il n'y a aucun lieu spécifique pour se retrouver, se rassembler, se reconnaître. Mais le cortège s'est mis en place et nous étions finalement presque 1000. C'était puissant. J'ai eu le sentiment d'une sorte de coming out collectif d'une ville, d'une grande respiration.
L'accueil à 15h30, du coup.
Cette année, en plus de Dunkerque, trois autres prides ont vu le jour dans la région, à Boulogne-sur-Mer, Lens et Valenciennes. Des villes moyennes qui ont pris la suite de Calais, qui avait lancé une première édition l'année dernière.
Prise de parole là, pareil sur la même heure.
Là-bas, il y a 2 ans, un collectif féministe actif s'est créé suite à de nombreuses sessions de collage. Puis un autre, plus spécifiquement pour la marche des fiertés. Il est composé en majorité de féministes lesbiennes, inscrites dans de nombreux autres réseaux militants, qui tentent de résister dans une ville où le candidat du Rassemblement national a été élu à plus de 53% des voix aux dernières élections législatives.
Mika, il était en paillettes, donc est-ce que vous trouvez quelqu'un d'autre qui veut faire des paillettes ?
Dans le contexte politique actuel de cette rentrée, avec une forte présence du RN à l'Assemblée nationale, j'ai voulu vous faire entendre les échos de cette deuxième édition de la Marche des Fiertés de Calais qui s'est déroulée la veille du premier tour des élections de juin dernier. Entendre ces voix, LGBTQIA+, féministes et queer, qui articulent de nombreuses luttes, donner du souffle, de la force, de l'espoir.
Réunis pour cette deuxième édition de la Marche des Fiertés de Calais, vraiment merci d'être là. Durant cette année écoulée, on a fait pas mal de projets, on a passé du temps avec vous. On vous a rencontrés sur divers événements, comme les trop dressing, les karaokés queer ou encore le ciné-débat. C'est essentiel pour nous de tisser des liens, de nous reconnaître, de partager des expériences. Et bien sûr, on en voudrait plus.
Chacun, chacune parmi vous tous peut témoigner de la difficulté qu'il y a encore aujourd'hui à vivre en s'assumant lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel, à vivre en dehors du cadre construit imposé par la société. Aujourd'hui, ensemble, nous voulons faire taire la honte et embraser nos fiertés. Bien sûr, nos droits ont progressé, mais nous les savons fragiles, d'autant plus dans le contexte politique actuel. Avec près de 40% de votes en faveur des listes du Rassemblement National et de Reconquête, et 50% à Calais, l'extrême droite a réalisé un score historique aux élections européennes du 9 juin dernier. Ce n'est pas dans ce monde que nous voulons vivre. Ce n'est pas dans ce monde que nous voulons voir nos enfants naître et grandir. Aujourd'hui, nous marchons ensemble pour un monde où chacun et chacune peut respirer, s'affranchir des normes écrasantes d'une société asphyxiée et enfin être fier. Merci.
Je m'appelle Clara, j'ai 29 ans. Je vis ici à Calais depuis bientôt 3 ans. Je suis arrivée au départ pour être en soutien à la frontière ici, avec pour projet de rester seulement quelques mois, de m'investir à temps plein dans des associations qui accompagnent les personnes exilées et de rentrer chez moi. En fait, je ne suis jamais rentrée chez moi parce que ici, c'était un choc monumental de prendre conscience de ce qui se passe à cette frontière, de la répression, de la violence policière, comment des gens survivent dans des conditions innommables. Il n'y a aucun droit humain fondamental qui est respecté ici pour les personnes qui survivent sur des lieux de vie en espérant fuir des violences, en espérant juste avoir accès à une vie digne. Depuis le démantèlement de la Grande Jungle, à part un ou deux naufrages, j'ai eu l'impression que tout le monde s'était désintéressé et ça m'a semblé insurmontable. J'ai réalisé que c'était important d'être ici, que ça sonnait juste et qu'il y avait des personnes formidables qui se battent tous les jours, qui avaient cette espèce d'effervescence, une très forte force, entraide, une dynamique collective qui est d'autant plus forte qu'elle est contrebalancée par un pouvoir policier, étatique, municipal et une répression constante, omniprésente. Et donc je pense qu'on est beaucoup à avoir trouvé une place alors qu'on n'avait pas prévu d'être là. La question de la marche des fiertés et la question queer plus largement, en fait, je me suis dite lesbienne pour la première fois à Calais. J'ai été pendant de nombreuses années dans des relations hétérosexuelles et en fait, j'étouffais dans ce schéma, mais je ne m'en rendais pas compte que c'est pour ça que j'étouffais, parce que je n'étais pas à ma place. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a fait ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Enfin, il y a quelque chose de fou qui s'est passé et qui ne pouvait pas être un hasard et qui ne pouvait pas être anecdotique. Enfin, en fait, j'ai vécu une révélation. Et ça m'émeut d'en parler et j'ai été foudroyée et enfin... C'était stratosphérique. Je me souviens marcher dans la rue pendant des heures, toute la journée sur la plage, aller-retour, en me disant « t'es lesbienne ». Enfin, il n'y avait rien d'autre qui existait. J'ai pensé qu'à ça, j'ai vécu que ça jour, nuit. J'ai arrêté de manger. C'était un constat incroyable. J'ai eu l'impression d'avoir compris le sens de la vie. J'ai beaucoup de chance parce que je l'ai vécu comme une révélation incroyablement positive tout de suite. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, ça a été... un déferlement de joie. Enfin, j'y pense chaque seconde. Je ressens à chaque fois que je me souviens de ce moment où j'en parle, la même chose que j'ai ressentie. Et j'espère que ça partira jamais parce que la joie, ça dure pas longtemps souvent. Et là, ça reste. Il y a eu ce besoin très très fort de se dire publiquement lesbienne, de pouvoir partager des espaces, des moments de lutte. Et en fait, on s'est rencontrés de manière informelle avec d'autres personnes. On s'est dit, mais tiens, comment c'est possible en fait qu'à Calais, qui est quand même une ville de plus de 70 000 personnes, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de marche des fiertés? Comment c'est possible qu'on voit si peu de personnes montrer qui ils ou elles sont dans la rue, montrer qui ils ou elles aiment? Comment c'est possible qu'on se sente aussi seule? Est-ce qu'il n'y a personne? Ou est-ce que juste tout le monde est caché? Et on avait une envie très très forte que ça puisse exister. On a fait ça de manière complètement novice, enfin, c'était amateur, on ne savait pas forcément comment faire. Alors il y en avait qui avaient déjà de l'expérience de déclaration administrative, de manif, d'occupation pour d'autres manifs à la frontière. Donc on a pu mettre en commun plein de savoirs, plein de connaissances. Ouais, c'était incroyable. Je me souviens, quelques jours avant, s'est posé la question de maintenir ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler et que surtout... on ignorait s'il y allait avoir du monde qui serait au rendez-vous. Est-ce que notre appel, il a été entendu? Est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce qu'on risque quelque chose à s'exposer ainsi, dans une ville aussi petite, où il y a autant de répression, où il y a autant de violence, où il y a une banalisation de la haine très forte, que ce soit dans la ville ou dans la région? On a décidé de maintenir. Et là, on arrive le jour J au théâtre et on installe nos stands, notre table. Et je me souviens qu'on se retourne. Et là, on voit de toutes parts des gens arrivés avec des drapeaux, mais par dizaines. Et des gens qui nous disent être venus d'autres villes, de Lille, de Dunkerque, de Boulogne, des campagnes. Il y a des gens qui arrivent en famille, des lycéens par groupe de 20. C'était exceptionnel.
Belle marche à tous et tous!
Ah bah nous on est happy, on est heureux d'être là. Ça fait des mois qu'on attend, ça fait des mois qu'on prépare ça et on avait hâte quoi.
Moi j'ai 19 ans.
Moi j'ai bientôt 16 ans.
L'année dernière on l'a fait, la première fois. On était un petit peu timide parce que on savait pas trop à quoi s'attendre, comme c'était la première fois qu'on participait à ça. Et là franchement depuis l'année dernière on attend que ça. Parce que c'est un moment genre où le monde il se met en off en fait. C'est difficile d'être LGBT quoi. Me faire insulter, menacer de mort sur les réseaux, ça arrivait. Tout ça parce que j'ai mis une photo avec ma copine quoi, de n'importe quoi. Moi personnellement j'ai toujours peur de sortir, de tenir la main à ma copine ou quoi, donc j'évite de le faire, par peur d'une agression quoi, enfin on sait jamais. J'aimerais bien être fière, genre de le montrer à tout le monde, mais à force des prides, etc., parce qu'on a été à la pride d'Arras aussi, on a vu que ça changeait partout. Les gens ils étaient investis dans les rues, ils sortaient avec des canons à confettis, ils avaient acheté des choses LGBT, etc. Ils les montraient à la fenêtre, ils criaient, ils soutenaient. Ça fait du bien quoi, de voir qu'il y a des gens comme nous qui sont là pour genre, nous montrer qu'on n'est pas seuls.
Et ben on va recommencer avec un geste qui est très fort, les BD dans la rue, mais vous avez le droit de crier les transpés des queens dans la rue, les queens dans la rue, tout ce que vous voulez, les trans dans la rue, c'est parti.
Et alors, c'est quoi votre pancarte là?
L'amour plus fort que le RN, parce qu'ils veulent réprimer nos droits et faut qu'on lutte contre ça.
Ah oui, vous, on peut réprimer l'amour, s'il vous plaît. C'est pour ça, aller dans les prides, montrer qu'on est là.
On sait qu'il y a des gens qui vont nous ressembler, des gens qui vont être là pour nous et qui ne vont pas nous discriminer. Ils vont nous accepter comme on est et nous aider à devenir comme on est. Et souvent, c'est les parents qui sont contre. Ce qui fait que ça peut entraîner énormément de disputes. Et
On a un ami, par exemple, il est transgenre. Et ses parents ne l'acceptent pas du tout, ils refusent qu'il fasse une transition, etc. Et ils lui ont dit que s'il faisait une transition, ce ne serait plus leur enfant. On essaye de le soutenir, mais c'est compliqué parce qu'on l'empêche d'être qui il est finalement. Moi j'ai compris dès la sixième que j'aimais les femmes, donc j'avais 12 ans. Mais même quand on l'assume très tôt, on se prendra toujours des critiques, etc. C'est un âge où les autres enfants ne comprennent pas, ils ne sont pas informés sur le sujet, et c'est des choses qui manquent, et donc ils vont faire des remarques qui sont maladroites. J'ai déjà eu par exemple « Ah mais tu ressembles pas à une lesbienne !» Il n'y a pas d'apparence pour aimer les femmes, enfin je comprends pas.
On envoie encore du gros son ou pas? On va danser aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis partie de la communauté, je suis pansexuelle, donc ça pourrait dire d'être fière de moi en fait, tout simplement. Moi j'aime tout le monde, que ce soit les filles, les garçons, les transgenres. Je m'en fous du sexe en fait. Moi je regarde plus le mental. Je me mets juste à la place d'une personne aveugle en fait. C'est important la personne intérieure. Il m'a fallu du temps pour me trouver. Il y a beaucoup tout ce qui est famille, jugement et tout, que c'était pas normal, que c'était contre nature, que c'était bizarre, mais ma mère surtout. Et en fait, c'est moi en grandissant, j'ai essayé, j'ai fait de l'expérience et tout, et je me suis trouvée. Et maintenant, je suis épanouie.
Ouais. Tu as quel âge?
18 ans.
C'est ma fille.
Ah, d'accord, ok, enchantée.
C'est ma grande qui voulait que je vienne avec elle pour voir ce que c'est, c'était la deuxième et... Bon, ça a l'air bien. Je viens pour d'être passé un bon moment, écouter de la bonne musique et puis être dans la joie et la bonne humeur. Je suis ouvert à tout quoi.
C'est important qu'ils sachent qui je suis et que qu'ils connaissent un peu mon monde on va dire, pour qu'ils comprennent un peu mieux. Enfin, parce que des mots, c'est pas forcément facile.
Vous habitez Calais du coup tous les deux?
Ouais, près de Saint-Omer, ouais. Je suis dans la logistique. Alors mon boulot, il y a toutes sortes de gens, on les accepte comme ils sont et on est très bien. Ça va.
Là, je suis en études d'esthétique et là, je passe en gestion. Donc, en esthétique, je parlais pas trop. Je m'effaçais un peu parce que vu qu'on était entre filles, le fait de dire que je suis pan, ça aurait fait des chichis. Parce que, surtout qu'en esthétique, on se montre beaucoup. Je préférais me cacher pendant ces 3 années, mais c'est un peu bête, je trouve, de devoir se cacher. Alors que nous, on veut juste vivre notre vie et nous assumer tel qu'on est et bah, on demande rien de d'autre en fait.
Les goudous dans la rue, les goudous dans la rue, les goudous dans la rue, les goudous.
Les goudous dans la rue, les goudous partout, sans plus jamais avoir peur.
Je m'appelle Céline, j'ai 41 ans, je viens d'Aire-sur-la-Lys, donc je suis du Pas-de-Calais. J'ai grandi dans un milieu ouvrier, dans un quartier plutôt populaire, mais d'une petite ville. J'ai grandi beaucoup dans la rue. On zonait pas mal parce qu'il n'y avait absolument rien pour la jeunesse. On faisait des foot, on faisait des ping, on faisait des cache-cache géants. On allait à la pêche aux épinoches. Et on était en mixité en permanence. Et personnellement, je pense que j'avais un peu des codes des deux genres. Et puis, il y avait plein d'histoires d'amour, mais toujours très hétéro, par contre. J'étais amoureuse passionnée, quoi. Je me souviens, j'avais gravé au compas sur mon bras les initiales de mon amoureux. Et puis c'était un peu genre des ruptures, des je me remets ensemble, des ruptures. Il y avait un espèce de concours dans le quartier de combien de fois on ressortirait avec le même mec. À aucun moment, j'ai eu des représentations lesbiennes. C'était vraiment complètement absent. Même dans toute ma ville, il y avait un couple gay. Genre c'était le truc de la ville, quoi, tiens. Peut-être je pourrais avoir le sentiment que je me suis conformée à une norme de ce qui était attendu de moi, mais j'en voyais pas d'autres. Par exemple, quand il y avait des stars à la télé, elles n'étaient pas forcément lesbiennes, mais elles avaient quelque chose qui m'attirait. J'avais plutôt l'impression que j'avais envie de leur ressembler, mais à aucun moment je ressentais un désir, ou en tout cas je ne le conscientisais pas. Et tout s'est mis en place à un moment donné, quoi. Je pense qu'il y a eu une première fois où j'ai capté le désir sexuel pour une femme. Ça m'a assez effrayée, en fait. J'ai littéralement fui cette soirée. Et après, il y a eu une première étape. Dans le cadre de ma formation en travail social, on a fait une semaine sur sexe, genre et travail social. Là, je me suis vraiment dit, ouais, il faudrait quand même que je teste un truc parce qu'il y a l'air de se passer quelque chose à cet endroit-là. Et ça s'est fait quelques mois après, ce qui a plutôt confirmé que mon désir, il était bien là. Et ce qui m'a fait me dire lesbienne, c'est au moment du confinement. C'était un énorme retour à soi obligatoire. Je sentais que je passais à côté de quelque chose qui allait être très fort à vivre pour moi. Et je passais à côté d'une partie de moi-même, en fait, aussi. Et j'ai exploré plein de choses, des lectures, des vidéos, pour vraiment chercher là où se trouvait mon désir. J'ai appelé ça la course d'orientation sexuelle. Et ben, en allant chercher un peu plus dans des choses plus fines, effectivement, j'ai capté que il y avait un univers que je ne connaissais absolument pas et qu'il fallait que je découvre. Et je me disais, mais je suis à Calais, qu'est-ce qui se passe ici pour une personne comme moi? Sur Calais, il y a un bar gay, donc c'est un bar LGBT, mais on y trouve principalement des gays. Je ne sais pas où sont les lesbiennes. Je t'avoue que je ne sais toujours pas. Avec une amie, on avait dit qu'à la Pride, on se ferait une affiche « Où sont les lesbiennes ?» En plus, j'étais maman en solo avec un enfant quand même assez jeune. C'est arrivé avec un homme avec qui j'avais une relation déjà plutôt établie. C'était quelques mois après ma prise de conscience. C'était assez contradictoire dans ma tête parce que j'étais en train de rentrer dans un moule quand même plutôt hétéro et en même temps un peu batailler avec ce désir dont je prenais conscience. Et me dire, dans quoi je m'embarque? Et puis, avec un recul, en me disant, de toute façon, c'est deux chemins différents. En fait, la maternité et mon orientation sexuelle, elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Et voilà, il y a cet enfant qui est arrivé et qui est super chouette. Il avait écrit un début de discours pour la Pride cette année, ça m'a trop touchée. j'avais sur mon PC depuis le matin ouvert un document qui s'appelait Discours Pride, que j'ai procrastiné toute la journée. Bah, lui, s'est mis au travail. Il s'est dit, tiens, elle n'a pas l'air d'avancer sur le sujet, donc moi, je vais écrire. Et donc, il a écrit, « Mesdames et messieurs, l'heure est grave et pas aiguë. Il faut protéger les LGBTQIA+, et arrêter les discriminations, le racket, les discours de haine et le harcèlement. Ne votez pas la droite ou l'extrême droite, RN avec H-I-N-E, mais la gauche ou l'extrême gauche, Front Populaire, il a mis. La violence, c'est mal, soyez heureux et faites en sorte que le monde le soit aussi. Merci. » C'était waouh.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Néo. Je m'appelle Néo, j'ai 22 ans.
Et ça danse là, je vois, alors devant là.
Oui, c'est Lady Gaga, alors forcément, ça vous... En plus, il s'est passé un moment important tout à l'heure, c'est que il y a quelqu'un de pas bien qui était là, il y avait un agresseur à moi, et le collectif l'a viré de la Pride. Elle lui a dit, bon, je te connais pas, mais je sais que t'as agressé quelqu'un ici, et pour son bien-être, on préférait que tu partes. Ça fait 6 mois qu'on prépare ça, alors... on veut pas que tu caches. Ça m'a touchée beaucoup qu'elle prenne ma défense, parce que on n'a pas souvent pris ma défense pour des moments comme ça. Et j'étais gênée, du coup je savais pas comment réagir. Je leur ai dit merci et j'aurais fait un câlin. Maintenant je
suis. Maintenant tu danses.
Ouais.
Allez.
À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Moi c'est Néo, j'ai 22 ans. Je suis là parce que j'avais besoin d'un collectif où je me sens à l'aise d'être moi-même. C'était vraiment nécessaire parce qu'à Calais, on se sent vraiment seul. Je suis non-binaire, mes pronoms c'est Yel. Et ici, je dis Yel et il parce que du coup, les gens, ils respectent pas le Yel. Pour moi, être non-binaire, c'est être trans, du coup. Trans-masque non-binaire, parce que je suis plutôt vers le masculin. Moi, du coup, c'était dès la primaire. Il y avait le truc de les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. J'ai jamais aimé ça, en fait. C'est même pas une question d'identité, juste même par rapport au sexisme. J'aime pas trop le fait de faire les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'est n'importe quoi. Et puis, quand on me disait t'es une fille ou t'es un garçon, je disais juste je suis un alien. Comment on me traitait, comment je me sentais inclus nulle part. Je me suis dit, je dois pas être humain alors, je pense. Je suis une créature. En fait, je me suis toujours sentie bizarre parce qu'on m'a mis ce mot. Je suis bizarre, je suis chelou. Donc maintenant, je me suis associée. Et j'aime bien être weird. J'aime bien. C'est moi, je suis un weirdo. C'est au lycée que j'ai commencé timidement à faire un move. J'ai commencé à enfin aller côté homme parce que j'ai toujours voulu. Sauf qu'après, dès que j'étais out en tant que trans et que là, ça s'est concrétisé quand j'ai dit j'ai un nouveau prénom, mes pronoms, c'est ça. Là, j'ai commencé à perdre ma famille. Maintenant, tout ce qui me reste, ma famille, c'est ma mère, mon frère. J'ai grandi avec ma mère, mon géniteur et mon frère. Ma mère, elle est sans emploi. Et là, mon géniteur... il est en formation, je crois. En fait, je crois qu'il veut être chauffeur poids lourd, il me semble. Je ne suis pas très proche de lui. C'est pour ça que je dis mon géniteur, d'ailleurs. C'est simple. Moi, je suis queer, vegan, de gauche, féministe. Enfin, je pourrais citer plein de trucs que lui, il est contre. Donc, du coup, forcément, ça ne matche pas trop. Pour moi, le mot PAPA, c'est un mot impossible à dire. Parce que ça n'a jamais été un père pour nous. Ils nous mettaient dans des situations dangereuses, ils nous ramenaient dans des endroits avec des gens pas côtoyables, fumaient de la drogue alors que mon frère était là. Ils nous laissaient seuls des fois avec des personnes que ça va pas. Donc moi, l'aîné, j'ai tout de suite pris le rôle de parenté, je me suis dit, c'est à moi de m'occuper de mon frère. Ma mère, elle était pas là parce qu'elle gérait ses soucis mentaux. Donc, toute notre enfance, on l'a passée avec notre géniteur. Puis, en plus de ça, il est violent. ça me mettait vraiment très en colère. C'est à des moments où c'était mon géniteur qui était violent avec mon frère. Et je me disais, mais je vais pas me battre avec mon géniteur. C'est ça le truc, moi je suis pas du genre à me battre. Je suis gentille, je suis calme, mais je fais pas ça, je veux pas être comme lui. Sur plein de trucs, et je me dis, j'ai pas été là. Je suis lâche juste parce que j'ai peur. J'ai pas réussi à le protéger. Mais en vrai, je devrais pas avoir à le protéger contre mon propre géniteur. À cause de ça, j'ai du mal à ressentir mes propres émotions. Je suis devenue un peu vide, quoi. Je suis un caillou. Je ressens rien. Je dissocie beaucoup de ma propre vie. C'est pour ça que c'est incroyable que l'année dernière, la marche des fiertés, ça m'a fait ressentir quelque chose. Ça m'a fait pleurer de joie. Et c'était la première fois que je pleurais de joie parce qu'avant ça, je ne comprenais pas qu'on pouvait pleurer de joie. Et là, c'est sorti tout seul. Le fait de danser avec eux, c'était tellement un moment libérateur. J'ai vu des trans qui se mettaient torse nu et tout. Je me suis dit, waouh, mais ils ont l'audace de faire ça à Calais. Ils sont courageux. Et, mais en vrai, c'était un mouvement fou.
Un twerk devant un policier parce qu'il représente l'ordre, l'état, l'oppression aussi parfois. Là, bon, le cortège il est peaceful, il est tranquille et tout ça, mais c'est des hommes en uniforme qui sont armés. À Calais aussi, le rapport à la police il est particulier parce que la plupart du temps ils sont plutôt là pour harceler les gens et du coup, bon, c'est des symboles. En fait, je fais ça parce que c'est pour dire qu'on peut défier cette autorité aussi et que nos corps, ils sont puissants et qu'on peut danser. Il faut laisser son corps exister et se sentir vivant, quoi. Et qu'il n'y a rien de mal à ça aussi.
Moi, c'est Lou Blaster. Aujourd'hui, je suis venue installer le matériel sur le camion son et je vais mixer tout à l'heure. À Calais, mais ailleurs, on a encore beaucoup le jugement des regards sur nous, sur nos corps, sur nos genres, nos identités. Enfin, moi, je suis femme et ça peut être compliqué parfois à vivre. Je suis investie en politique, je suis au conseil municipal dans l'opposition. Et c'est vrai que moi, je sens du sexisme. Voilà, on va un peu me décrédibiliser. Comme je suis une femme, ils aiment bien me prendre un peu pour une gamine. Et j'ai quand même 32 ans, mais j'ai déjà eu pas mal de fois des réflexions comme ça. Ah si, on m'a déjà traité d'enfant gâté. Ou alors je vais être trop excentrique pour être sérieuse, quoi. Un bonhomme en costard avec une cravate, on a plus confiance qu'une fille en mini-jupe. Enfin, on s'en fout. Je peux être en jupe avec des talons ou en buffalo avec un short ou baggy, crop top, où je mets beaucoup de couleurs. Je ne vais pas m'uniformiser pour ces gens qui sont dans un monde en noir et blanc, quoi. Enfin, moi, je suis critique et puis bon, quand j'ai des choses à dire, je ne me cache pas, quoi. À Calais, ça arrive souvent ce genre de situation où si t'es pas conforme, on va te le faire comprendre que t'as intérêt à être dans le rang, quoi. On va essayer de t'écraser. J'ai été stigmatisée pour le travail que je fais de dessin parce que je travaille autour de la question des personnes exilées. Du coup, je documentais ça. Et on m'a pas donné un boulot à l'école des Beaux-Arts. On m'a proposé le poste. La mairie a pas validé en prétextant pas les bonnes compétences. Ils ont eu peur peut-être que je retourne les cerveaux des enfants à l'école. C'est bizarre. J'avais jamais été discriminée avant ça dans le travail. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit que c'était pas possible que la ville, elle se comporte de cette façon-là et que je devais me représenter moi-même. Du coup, je me suis présentée dans aussi l'optique que la politique, elle ressemble plus aux gens. Il devrait y avoir des travailleurs, des chômeurs, des étudiants, des femmes, des hommes. Tout le monde devrait avoir sa place pour contribuer, pour faire, fonctionner autrement. Et moi, je suis élue citoyenne. Bon, on n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, parce qu'on est 6 élus d'opposition, sur une trentaine plus d'élus de majorité. Et puis, on a une politique locale qui est déjà très proche de l'extrême droite. Hein. Les projets sont quasiment le même. Et là, on a un élu qui est quand même proche de Marine Le Pen, ancien militaire. Et en fait, la situation, elle ne change pas pour les personnes exilées et pour la précarité. Il y a toujours du monde à la rue, ces campements insalubres. Vu qu'en fait, on ne cherche pas à régler les problèmes, on laisse la situation pourrir. Ils ont fait fermer une salle de concert il y a quelques années, comme une MJC, quoi, qui est maintenant un magasin de meubles énorme, très très laid. Donc là, il n'y a plus de MJC à Calais. Aucun lieu indépendant. Ça devient très compliqué. Si on ne peut pas s'exprimer, en fait, le reste, on ne peut pas le faire. Si les individus s'auto-censurent, si les individus ont peur de prendre la rue, de manifester, c'est, pour moi, c'est vraiment les premières libertés, c'est de pouvoir être soi dans la rue, qu'on soit un syndicaliste pour le rail français, ou au port, ou dans les luttes LGBT, quoi. Nos difficultés, on les met à l'extérieur, on les montre et on va les porter comme un tatouage sur la peau ou une pancarte en manif. C'est ça, nos cultures, en fait.
Excité. En plus, c'est ma chanson préférée. Je suis sur un nuage en fait. Et là, on est rue Royale, c'est la rue principale de Calais. Et on est des centaines. Alors, il y a des personnes qui ont compté, qui m'ont dit qu'on était entre 550 et 600. C'est énorme.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un bel éventail.
Un éventail rainbow sur le thème de la Gay Pride. Parce que je suis gay, fier, et que j'ai envie de montrer que ben on a le droit d'être libre et de se présenter tel qu'on est. Ça fait 20 ans que je suis plus caché, quasiment. Et au final, ben, maintenant je suis là.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Zimoyo.
J'ai vu que tu dansais à fond là, à côté du camion.
Moi j'aime bien danser, ouais, j'aime bien me défouler, je suis hyper active, donc il faut sortir l'énergie de là. Profiter quoi qu'il arrive. C'est ma première fois, ouais. C'est super sympa, ça fait des rencontres avec des gens, pouvoir échanger nos parcours. Ça fait plaisir d'avoir une grande famille qui soit avec nous et qu'on se soutient l'un contre l'autre. On se sent moins seul. Et il n'y a que l'année dernière, j'ai su vraiment qui j'étais réellement. Est-ce que je suis une fille, un garçon? Alors je suis lesbienne peut-être? Ah bah non, du coup, je serais plus dans ce style-là. J'ai regardé une vidéo sur Internet et j'ai vu un mec qui était trans et qui expliquait du coup ce parcours. Et je me suis tellement reconnue dedans. Je me suis dit, attends, mais du coup, bah, moi je suis trans alors dans ce cas-là. Se voir dans la glace et pleurer et j'en passe, hein. Et avec le temps, bah, je me suis réalisée que ça ne me convient pas le corps d'une femme, je ne peux pas le supporter. Des formes féminines, ah, ça va me gêner énormément. Les hanches aussi, tout féminin, la voix qui féminise, les traits féminins. Ça fait très bizarre, t'as envie de te dire, ah, s'il y a une possibilité de se faire stériliser, je le fais. Si quand mes seins pousseront, bah, je les couperai. Quoi que t'essayes de cacher un maximum le fait de cacher la femme, bah, on arrive à dire bonjour madame, ça va mademoiselle, elle, tout. Non, 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 c'est pas possible. Non, moi je préfère les il, Ximoyo. Je m'appelle Maria, normalement femme. Non, 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 vous êtes trompé de personne. Là, je, pour une fois, je suis en train de m'affirmer, de dire bah non, c'est ma vraie carte d'identité, elle est là. C'est Ximoyo, il, point. Pas plus ni moins. La seule personne qui a la réponse, c'est nous, au fond de nous, au plus profond. C'est comme ça que je me suis dit, bah écoutez, moi je vais pas vivre pour les autres, mais je vais vivre pour moi. Et s'il y a une possibilité de faire une transition, bah je la fais. S'il y a une porte de la liberté, pourquoi je devrais rester là à regarder la porte? Elle est magnifique, mais je sais pas l'ouvrir. Non, il faut y aller, foncer dedans, et peu importe, et regarder les gens, on s'en fout. Ah, il y en a, ils ont du mal. Après, quand t'expliques bien, ils peuvent comprendre, mais ne pas juger tout de suite, ah t'es trans, oh là là, alors là c'est le chétan, le diable. Je savais pas que j'avais des cornes qui me poussaient parce que je suis trans. Et après, il y a des gens qui te poseront des questions. Bah, du coup, t'as quoi entre les jambes? Bah, putain, est-ce que demain il fait jour? Voilà, des questions débiles. Mais après, c'est avec du recul. La personne qui est devant, elle va pas savoir. Donc, je veux bien expliquer une fois, deux fois. Mais si au bout d'un moment, ils se foutent vraiment de ma gueule, ouais, bon, dégage. Voilà, ça sert à rien de me parler pour au final me dire des choses qui sont blessantes.
C'est compliqué de vivre en dehors de la norme. La norme, c'est un peu comme un pantalon trop petit. On a du mal à respirer, avoir l'impression de ne pas pouvoir être tout à fait soi parce que ce serait décevant, dérangeant, ce serait l'occasion pour d'autres personnes de se moquer de nous, de nous faire du mal. Et en fait, quand on arrive à se débarrasser de ça, on se sent libre, on se sent heureux. La communauté, c'est un truc important dans ce processus-là. C'est quelque chose qui nous protège. À un moment donné, je suis sortie du cortège pour aller remplir ma gourde. Et je me suis dit, je sors du cortège, je suis toute seule, je suis isolée. Ça pourrait énerver fort des gens de voir cette manif. Et en fait, on se protège en fait, les unes les autres, les uns les autres, des violences de l'extérieur, en créant des choses ensemble, en créant assez de choses dans notre bulle pour qu'on puisse être heureux. Enfin, on mange ensemble, on fait des événements ensemble, on colle ensemble, on lit des livres ensemble. Et ben voilà, ça me nourrit. J'ai pas envie de sortir du cortège, quoi. C'était Une vie à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Annabelle Brouard. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Illustration, Anna Vanda Gogusset. Un grand merci à Céline, Clara, Simone, Néo, Thaïs, Lou Blaster, Perrine et toutes celles et ceux qui ont marché, le micro tout près. Le prochain épisode d'Un podcast à soi prolongera celui-ci en se consacrant à la joie militante féministe. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastasoi. Et si l'envie vous en dit, lisez un livre à soi pour prolonger l'écoute. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.